La tête dans l'étagère, une émission de critique sociale diffusée sur Radio Escapade les 1er et 3e mardis du mois de 17h à 18h. Rediffusion le vendredi à 9h30. Eh bien, bonjour, vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La tête dans l'étagère. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons avoir un entretien avec Maud Gély qui a fait paraître il n'y a pas longtemps un ouvrage très intéressant qui s'appelle « Les politiques du tri d'une épidémie à l'autre, sida, Covid » aux éditions du Croquant. Eh bien, Maud Gély, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez une double casquette. Hein. Vous êtes à la fois chercheuse en sociologue et aussi médecin.
Oui.
Donc, vous êtes chercheuse en sociologie à la PHP, donc Assistance publique Hôpitaux de Paris, au CRESPA. Et vous exercez au centre à Bobigny, au centre d'IVG, c'est l'hôpital à Vicennes, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Voilà. Vous ne travaillez plus au centre municipal de santé de Saint-Denis?
Non, d'accord. Depuis 2015.
D'accord, d'accord. Donc voilà. Et du coup, donc, vous avez fait paraître ce livre très intéressant. Après, vous avez fait d'autres livres précédemment. C'était sur l'avortement. Mm-hmm. Et vous avez dirigé dans des revues spécialisées de sociologie assez intéressantes. La revue Agone avec... Laure Pitty, et je ne sais pas si c'était avec Audrey Mariette, sur « Quand la santé décuple les inégalités » et « Acte de la recherche en sciences sociales », deux volumes, ça s'appelle « Santé critique ». Et c'est beaucoup d'articles qui travaillent là-dessus, sur ces questions-là. C'est assez intéressant, donc je conseille aussi à la lecture.
Merci.
Voilà, voilà, voilà. Eh bien, on va commencer, rentrer dans le vif du sujet. Alors, sur votre livre, en gros, ce que vous dites, c'est que les politiques publiques jouent un rôle majeur dans ce qu'on appelle la distribution des biens de santé.
Oui.
Mais surtout dans leur attribution sélective à certains groupes sociaux, certaines classes sociales. Et donc, pour ce faire, pour bien comprendre comment se produisent les inégalités sociales face à la maladie et face à la mort, mais aussi comment certains groupes sociaux et classes sociales s'approprient les biens de santé alors que d'autres en sont privés.
Tout à fait.
Voilà, donc tout ça, ça va nous permettre de comprendre ça et d'analyser tout ce qui conditionne cette appropriation. Bon, c'est pas l'appropriation primitive du capital, c'est une autre appropriation, mais il y a des ressemblances.
Okay.
Voilà, voilà.
Oui, tout à fait. Oui, donc effectivement, en fait, dans ce livre, j'articule deux enquêtes. L'enquête sur le dépistage du sida que j'ai menée pour ma thèse de sociologie et une enquête sur le Covid qui était menée par un collectif de recherche. Mais pour l'enquête hospitalière, j'ai beaucoup travaillé avec Alexis Spire. Et donc dans ce livre, j'articule ces deux enquêtes pour analyser à différents niveaux comment les politiques publiques contribuent à reproduire, parfois amplifier et éventuellement à réduire les inégalités sociales en matière de santé. Voilà. Parce que ces deux épidémies donnent, enfin, l'enquête sur ces deux épidémies donne accès aux trois niveaux d'élaboration et de mise en œuvre de l'action publique. Mais je vais y revenir plus en détail, je suppose.
Tout à fait. Alors bon, pour cette enquête, c'était deux épidémies à deux moments différents, c'est pas les mêmes épidémies. Il y a des choses qui les singularisent, mais il y a aussi des choses qu'elles ont en commun. Mm-hmm. Alors, pour l'épidémie de sida, je crois que vous aviez enquêté dans les centres de dépistage de la région parisienne. Et pour ce qui est du Covid, vous avez enquêté dans un hôpital public du Grand Est, une région qui était très touchée par la pandémie, même la première à être touchée. Et ce que vous dites là-dedans, c'est que les politiques publiques en matière de santé, mais pas que, publiques en général, alors à la fois elles objectivent les inégalités sociales, elles les occultent, elles les reproduisent et aussi elles peuvent les amplifier. Et dans le cas précis que vous étudiez, c'est des formes de ciblage et des formes de tri. Voilà. Et bon, on a beaucoup entendu pendant le moment du pic épidémique, les autorités nous dire qu'il n'y avait pas de tri. Bon, le déni des autorités était vraiment... Il y avait beaucoup, mais celui-là, il sautait aussi aux yeux. Hein. Et donc, on va voir que le tri, non seulement a eu lieu pendant cette épidémie, mais que c'est structurel, politique, public, en la matière.
Voilà. Pendant l'épidémie de Covid, le tri est devenu, est entré dans le débat public. Le tri des malades pour l'accès aux ressources vitales des techniques de réanimation. Mais en fait, ce que montrent mes deux enquêtes et ce qu'ont montré d'autres chercheurs avant ces enquêtes, je pense notamment à un collectif qui a publié il y a quelques années un livre qui s'appelle « La médecine du tri », plusieurs enquêtes ont montré qu'en réalité, les pratiques de tri sont consubstantielles à l'activité de soins, à l'activité médicale, et qu'on peut rassembler sous ce terme tout un ensemble de pratiques de sélection des publics, de priorisation des publics pour la distribution de certains biens de santé, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire de certains traitements, de certains diagnostics, de certaines techniques diagnostiques qu'on choisit de distribuer ou pas dans certains quartiers, en direction de certains groupes, définis par leur âge, leur exposition à une maladie quelconque. Leur origine migratoire, par exemple, et que dans ces choix de ciblage des publics, par ces choix de ciblage des publics, on peut parfois réduire les inégalités sociales face à la maladie et éventuellement face à la mort, mais on peut aussi, par certains choix de ciblage des publics, les amplifier. Voilà.
Voilà, tout à fait. Par rapport à cette question du tri, là, je le signale, hein, il y avait un autre livre assez intéressant qui s'était posé cette question. Alors, je pense que vous en connaissez, parce qu'il y en a avec une que vous avez travaillé avec Caroline Isampeur,
oui, voilà,
Pierre-André
oui.
Juven et Jean-Paul Gaudière, qui s'appelle Pandémo politique,
oui,
qui ont
oui.
aussi interrogé cette question. C'est paru des éditions de La Découverte il n'y a pas longtemps, et ça parle aussi de chez ceux-là et comment réinventer la santé en commun. Voilà, c'est un peu leur point de départ.
Absolument, et justement Caroline Isambert fait partie des chercheurs qui ont publié dans le livre dont je parlais tout à l'heure, La médecine du tri, justement Caroline met en évidence des formes de tri dans l'accès à certains traitements pour les malades étrangers sans papier.
Voilà, et Pierre-André Juven, il avait participé au livre, on avait... interroger Stéphanie Vincent, c'était la case du siècle sur la réforme de l'hôpital public, et lui, oui. il était un des co-auteurs pour nos auditeurs, s'ils se rappellent de ces émissions intéressantes. Voilà, alors on va un peu venir à votre sujet de votre ouvrage, donc vous avez un peu fait en plusieurs parties. Tout d'abord, vous interrogez la question des acteurs des politiques publiques de santé, mais il y a des acteurs étatiques et des acteurs non étatiques, donc soit des acteurs associatifs par rapport à au dépistage du VIH ou alors à le personnel de santé qui pourrait aussi ne pas être étatique pendant le pic de la pandémie au printemps 2020 jusqu'au début de l'année 2021. Et un peu ce que vous dites un peu dans cette première partie, c'est que il y a eu comme une délégation de l'action publique de santé au secteur associatif par rapport au VIH et qu'il y a eu une régulation de l'offre et de la demande de ressources sanitaires pendant le moment des pics épidémiques du Covid. Voilà, c'est un peu les grands thèmes que vous y abordez. Donc si vous pourrez nous exposer ces choses-là pour nos auditeurs et nos auditrices.
Oui, tout à fait. Donc effectivement, donc là on se situe au niveau de la conception de l'action publique, des auteurs de normes de l'action publique, c'est-à-dire des administrations de la santé, des agences d'État qui élaborent les politiques publiques contre l'épidémie de sida et contre l'épidémie de Covid. Dans le cas de l'épidémie de VIH-Sida, j'ai beaucoup travaillé sur les archives de l'association AIDE qui venait d'être versée aux archives nationales et sur j'ai observé aussi les réunions de l'Agence nationale de recherche sur le sida qui mettait en œuvre qui contribuait à faire évoluer la politique de dépistage au début des années 2010. Et avec ces matériaux, je montre que le tournant de la politique de dépistage du VIH correspond à l'année 1996, c'est-à-dire à la commercialisation des trithérapies, qui sont les premiers traitements très efficaces du VIH. Et à ce moment-là, la politique nationale de dépistage change, alors qu'auparavant, le dépistage était, disons que la politique de le dépistage reposait sur les centres de dépistage anonymes et gratuits, le dépistage chez des médecins généralistes de ville, plutôt sur demande des usagers. Suite à la commercialisation des trithérapies, la politique de dépistage étend le dépistage au-delà de ces seules structures et renforce le ciblage des groupes les plus exposés à la contamination, c'est-à-dire les hommes homosexuels et les personnes nées à l'étranger, dans l'objectif de réduire les contaminations dans l'ensemble de la population. Ça, c'est la fin des années 90 et les années 2000. Et puis, au début des années 2010, toujours dans ce même objectif de cibler les groupes les plus exposés, l'administration de la santé, c'est-à-dire la Direction générale de la santé, le ministère délègue le dépistage aux associations et à des agents associatifs qui ne sont pas professionnels de santé pour amener le dépistage au contact des publics les plus exposés, c'est-à-dire les plus exposés à la contamination, c'est-à-dire les hommes homosexuels et les personnes nées à l'étranger. Cette politique s'appuie sur ce qu'on appelle les données d'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouvelles contaminations par an, qui montrent, ces données d'incidence montrent une surexposition des hommes homosexuels et des personnes étrangères originaires d'Afrique subsaharienne, surexposition au VIH, mais cette politique méconnaît, ou en tout cas ne s'appuie pas sur les inégalités sociales face aux décès, qui sont pourtant connues, puisque, comme je le montre par une analyse statistique des 44 000 décès liés au VIH-Sida entre 1987 et 2011, la mortalité est plus élevée et plus précoce pour les classes populaires et les femmes étrangères, y compris, et même surtout, en fait, après la commercialisation des trithérapies. Voilà, donc là, le ciblage, dans le cas du dépistage du VIH, le ciblage est déterminé par les inégalités face à la contamination et pas par les inégalités face au décès. Donc, mon enquête ne porte pas sur cette étape-là, mais elle ne porte pas sur le décès, hein, mais on peut supposer que cette politique de dépistage est au mieux inefficace pour réduire les inégalités sociales face au décès. Dans le cas du Covid, au niveau de l'élaboration des politiques publiques, c'est très différent puisque, au contraire, le gouvernement, les agences régionales de santé, les directions hospitalières ont élaboré des mesures non ciblées de lutte contre l'épidémie qui consistaient d'une part à augmenter l'offre de lits hospitaliers par l'annulation massive de soins hospitaliers, d'interventions prévues, d'opérations, et d'autre part à maîtriser la demande de soins hospitaliers par les confinements successifs qui visaient à limiter les contaminations. Or, ces politiques au niveau de la population, mises en œuvre au niveau de l'ensemble de la population, n'étaient pas du tout ciblées dans le cas du Covid. Contrairement au VIH, Le dépistage est de plus en plus ciblé vers les groupes sociaux les plus exposés à la contamination, hommes, homosexuels et personnes étrangères des deux sexes. Au contraire, dans le cas du Covid, l'élaboration des politiques publiques n'est pas ciblée et ne prend pas en compte les inégalités sociales, mais on va voir dans un second temps c'est aux agents travaillant au contact direct du public et aux agents intermédiaires de l'action publique qui est délégué le travail de priorisation et de sélection des publics pour l'attribution de biens rares, puisque au moment de l'épidémie de Covid, les lits de réanimation, les lits hospitaliers manquaient cruellement et étaient nettement inférieurs à la demande.
Oui, on peut dire que lors des grands pics, les pouvoirs publics, en fait, ils ont surtout visé à atténuer la compétition entre malades en vue des ressources hospitalières ou à définir des critères d'accès aux structures hospitalières. Et ces mesures sont, comme vous dites, socialement différenciées. C'est qu'il y a ceux qui sont privilégiés, c'est ceux qui ont déjà un capital de santé nécessite un capital économique, un capital social, un capital culturel. Donc c'est les classes moyennes ou supérieures qui vont en bénéficier par rapport aux autres, quoi. On peut traduire comme ça.
Voilà. Mais alors, je montrerai comment, justement, à travers le cas de la vaccination contre le Covid, enfin, j'imagine qu'on va y revenir un peu plus loin dans l'émission, mais effectivement, le cas de la vaccination contre le Covid est particulièrement illustratif de ce processus d'appropriation d'appropriation plus rapide de dispositions sociales des classes moyennes et supérieures à l'appropriation des biens de santé, des ressources en santé.
Tout à fait. Ça sera la partie de répartition des ressources contraintes qu'on fera juste après la pause musicale.
Très bien, merci.
We got a new thing called China Up China. So I'm gonna get the upsets to play the music of China Up China by. Right now we're gonna get our bass playing drummer to China Up China. Our bass playing drummer, China Up China. We're China Up China on the East Coast here. We're in Boston, New York, Philadelphia, Baltimore, Boston. Oh yeah, China Up China there. Now we're gonna get our guitar player to China Up China. China Up China guitar. We're on the way to the south here now. Atlanta, Georgia, Birmingham, New Orleans, Memphis, Tennessee. China Up China now. China Up China there. We're gonna make it groovy there. We're gonna make it groovy.
Eh bien, vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La Tête dans l'étagère. On vient d'écouter, c'est le morceau Tighten Up Tiger. Et on poursuit notre entretien avec Mojelli par rapport à son livre très intéressant, Les politiques du tri. Et on allait donc s'intéresser à la répartition des ressources contraintes. Alors, dans la répartition des ressources contraintes, d'une part, par rapport au VIH, il y a l'ajustement du dépistage aux cibles de l'action publique. Et d'autre part, il y a la question des distributions des lits et des vaccins face au Covid. Donc voilà, tant par rapport au VIH que par rapport au Covid, il y a socialement différenciés d'appropriation des ressources de santé hospitalières ou autres.
Oui, tout à fait. Alors là, je vais passer un peu vite sur le VIH pour insister plutôt sur le Covid, qui correspond plus à ce que vous venez de dire. Donc dans le cas du VIH, je le disais tout à l'heure, l'État a en quelque sorte délégué le dépistage des groupes cibles, c'est-à-dire hommes homosexuels et personnes étrangères, à des associations. Or, si on déplace la focale de l'enquête au niveau des acteurs, des agents intermédiaires de l'action publique, c'est-à-dire des directions associatives qui mettent en œuvre le dépistage des groupes cibles, on s'aperçoit, ce que j'ai constaté dans l'enquête, c'est que les associations qui sont financées, qui reçoivent des financements publics selon leur capacité à atteindre les publics cibles du dépistage, ajustent leurs investissements de temps, de locaux, de personnel à ces cibles. Ce qui me permet d'avancer ça, c'est que j'ai observé un certain nombre de réunions à l'Agence nationale de recherche contre le sida, auxquelles participaient des associations, mais aussi des réunions des équipes locales de l'association AIDE, réunions dans lesquelles les salariés associatifs comparaient les taux de sérologie VIH positive par public entre les actions, entre les différentes associations impliquées, afin d'ajuster leur action. Par exemple, je me souviens d'une réunion à AIDE où les salariés constataient que quand ils faisaient du dépistage dans les facs, dans des universités, ils avaient très peu de taux positifs. Et donc, ils en concluaient qu'ils avaient intérêt à changer de choix de lieu de leurs actions de dépistage, parce que c'était sur le taux de positivité que l'efficacité de leur dépistage était évaluée par leurs financeurs et que la pertinence de leur ciblage était évaluée en quelque sorte. Voilà, donc on voit comment une action publique donc ajustée au risque de contamination et qui délègue l'action publique à des associations qui se spécialisent par public contribue à durcir les contours des groupes cible de l'action publique. Dans le cas du Covid, le niveau intermédiaire de l'action publique est un peu différent. Là, il ne s'agit plus de direction associative, mais plutôt de cadres et de direction des services hospitaliers qui décident d'annuler la quasi-totalité des opérations, des hospitalisations prévues, la quasi-totalité des soins jugés moins urgents que le Covid. Mais il s'agit aussi, là, les agents intermédiaires de l'action publique, il s'agit aussi des collectivités locales qui ouvrent des centres de vaccination, par exemple, des municipalités, des départements, des centres municipaux de santé, des directions des centres de vaccination. Alors, en ce qui concerne la distribution des lits hospitaliers face au Covid, l'enquête qu'on a menée dans un hôpital du Grand Est avec Alexis Pire montre que les déprogrammations dont on a beaucoup entendu parler, donc au pic de l'épidémie de Covid, les déprogrammations, en fait, ce terme recouvre une réalité multiple. Il peut s'agir du report d'une hospitalisation à une date ultérieure ou bien d'un report sine die, c'est-à-dire sans autre date prévue, soit à l'initiative du service qui veut libérer un lit ou des bras du personnel pour s'occuper du Covid, soit à l'initiative des patientes et patients qui annulent leur intervention par peur d'être contaminés par le Covid à l'hôpital. Or, notre enquête a montré que quand les interventions ne sont pas reportées et reprogrammées à une date ultérieure, il arrive bien souvent que les patients soient tout simplement oubliés, l'intervention soit annulée, qu'on leur dise « on vous rappellera » et qu'on ne rappelle jamais. Et dans ce cas-là, les patients se sentent légitimes pour rappeler, insister pour qu'on rétablisse leur consultation ou leur intervention annulée, parviennent à la voir au bout d'un délai plus ou moins long, et puis certains tout simplement renoncent. Or, on sait par d'autres enquêtes que le renoncement aux soins n'est pas du tout distribué au hasard dans l'espace social et qu'il concerne plutôt, dans le cas des soins de ville pour le Covid par exemple, qu'il concerne plutôt les professions intermédiaires, les personnes inactives ou au chômage, les femmes et les personnes atteintes de maladies chroniques. Donc ça, c'est pour la distribution des lits hospitaliers. Et si on se concentre sur la distribution des lits de réanimation, qui étaient les ressources les plus rares et les plus précieuses au pic de l'épidémie de Covid en 2020, les critères qui ont été formalisés par les sociétés savantes de réanimation pour l'attribution de lits de réanimation mettent en avant trois critères, donc l'âge, la dépendance à une aide extérieure pour les activités de la vie quotidienne et la présence de comorbidités, c'est-à-dire d'autres maladies que le Covid, par exemple un cancer, un diabète. Voilà. Ces recommandations ne fixent pas de seuil d'âge, mais on sait que ces critères, notamment la dépendance et les comorbidités, ne sont là encore pas du tout distribués au hasard dans l'espace des classes sociales. Et notamment, on sait par d'autres enquêtes que la dépendance à des aides extérieures pour les activités de la vie quotidienne est deux fois plus fréquente chez les ouvrières et ouvriers que chez les cadres, que la mortalité par cancer est deux fois plus importante chez les hommes sans diplôme que chez les hommes qui ont le bac, et que la mortalité par diabète est cinq fois plus importante chez les hommes ouvriers employés que chez les cadres. Quant à l'obésité, dont on sait qu'elle favorise les formes graves de Covid, elle est inversement liée au niveau de revenus et elle est donc plus fréquente dans les classes populaires. Donc c'est le fait que les critères d'attribution, le choix des critères d'attribution des lits de réanimation, bien que ce ne soient pas des critères sociaux, peuvent contribuer à amplifier les inégalités sociales d'accès à la réanimation par construction, en quelque sorte, parce qu'ils défavorisent les malades des classes populaires. C'est d'autant plus... Ouais, non, je vais passer sur le cas de la Seine-Saint-Denis parce que je vais y revenir dans le cas de la vaccination. C'est particulièrement manifeste, l'effet amplificateur des inégalités sociales par une politique publique est particulièrement manifeste dans le cas de la vaccination contre le Covid, qu'on peut considérer comme un cas d'école, puisque la distribution des vaccins a été très peu régulée par l'État en France, contrairement à ce qui s'est passé par exemple en Espagne ou au Portugal. En Espagne, ce sont les services publics de santé et de protection sociale qui ont convoqué les personnes sur des critères d'âge, de comorbidité et d'exposition professionnelle, de façon beaucoup plus large qu'en France. C'est-à-dire que contrairement à la France, ce ne sont pas seulement les professionnels de santé qui ont été vaccinés en premier, mais les professionnels de l'éducation, de la santé et de la sécurité. En France, au contraire, il n'y avait pas de critères géographiques ni d'exposition professionnelle, sauf pour les professionnels de santé, hein. Il n'y avait pas de critères de ce type pour l'inscription sur les plateformes en ligne. Il n'y avait qu'un critère d'âge et c'était aux personnes de faire la démarche de s'inscrire en ligne, alors que dans d'autres pays, donc l'État, les agences d'État allaient au-devant des personnes pour distribuer les vaccins dans un ordre déterminé. On a bon assez vite avec quelques collègues, on a compris que cette campagne vaccinale allait amplifier les inégalités face au Covid, et donc avec une jeune interne qui s'appelle Selma Gomari et dont nous dirigeons la thèse avec une collègue médecin, Charlotte Serrano, on a conçu un questionnaire beaucoup plus complet que le questionnaire pré-vaccinal national. Le questionnaire national comportait très peu de renseignements, le sexe, l'âge, les maladies chroniques et l'allergie à des médicaments. Et nous avons conçu un questionnaire qui comporte le sexe, l'âge, la profession, le niveau de diplôme, la nationalité, le pays de naissance, la couverture maladie, le département de résidence et les modalités de rendez-vous, de prise de rendez-vous, en ligne ou par téléphone ou sur place. On a pu analyser un peu plus de 1500 questionnaires. Et cette enquête montre que les personnes vaccinées, donc on a distribué ce questionnaire dans un centre de vaccination de la Seine-Saint-Denis, qui était un département particulièrement touché par le Covid, dans lequel la mortalité a été beaucoup plus importante que dans l'Hexagone. Et donc en analysant ces questionnaires remplis par des personnes vaccinées dans un centre municipal de santé de Seine-Saint-Denis, on a pu montrer que les personnes, que les classes moyennes et supérieures étaient presque deux fois plus représentées parmi les personnes vaccinées dans le centre de santé que dans le reste du département. Et au contraire, les classes populaires, à peu près deux fois moins nombreuses. On a pu montrer aussi que les habitantes et habitants de Seine-Saint-Denis avaient beaucoup moins souvent pris rendez-vous par Doctolib et que les faits, ce qui favorisait la prise de rendez-vous par Doctolib, c'était le niveau de diplôme. Donc cette campagne vaccinale constitue un cas particulièrement démonstratif d'amplification des inégalités sociales par une politique publique, puisque les modalités d'organisation de la campagne vaccinale ont contribué à éloigner les doses de vaccins des classes populaires de la Seine-Saint-Denis, qui étaient pourtant plus exposées à la contamination et aux formes graves de Covid. Il faut me couper quand vous voulez.
À ce propos, il y a quelqu'un qui a étudié ces questions-là, qui s'appelle Nathalie Bajos. Elle avait écrit un petit article avec Émilie Counil, qui avait participé avec elle à cette étude. Elle parle des points aveugles des inégalités de santé pendant cette période-là. Et ce qu'elle dit, en gros, c'est que l'occultation des risques qui est encourue par les habitants de la Seine-Saint-Denis, qui étaient eux, un peu la chair à travail, parce qu'ils ne pouvaient pas télétravailler, eux, ils allaient au travail, ils prenaient les transports en commun, donc ils étaient surexposés à des contaminations qui sont... et le fait de se laver les mains ne changeait pas grand-chose, c'est plutôt les porter des masques, il y avait une pénurie de masques, donc du coup, ça les a encore plus surexposés, et que cette occultation des risques encourus par ces populations, des sous des classes populaires, ça résulte aussi d'un processus de production d'ignorance qui préexistait, qui a perduré pendant cette pandémie, donc c'est assez structurel. Et outre les questions relatives à la non-prévention des contaminations, donc de ces classes populaires au travail essentielles mais invisibles, et la non-prioritarisation de la vaccination de ces personnes, aussi, la définition restrictive des seuls cas graves de Covid comme maladie à traiter en urgence, eh ben, ça les a aussi constitué une sorte d'inégalité sociale en termes de perte de chance et autres inégalités sociales de santé. Quoi.
Oui, tout à fait.
Voilà. Donc, dire ça comme ça. Et. Ce que vous aviez dit aussi dans votre livre, je crois que c'est vous concluez que cette crise ça a révélé une délimitation de l'espace social dans lequel la compétition entre les patients elle respecte certaines règles et il y en a qui les respectent pas, donc il y a ceux qui respectaient pas les règles, c'est ceux qui sont allés se faire vacciner dans le 93, c'était pas des gens de 93, c'est des gens de du Paris ou des Yvelines ou des départements un peu cossus de la région parisienne, parce que les grands centres de vaccination étaient dans le 93, mais ceux qui devaient y aller, ben, vu qu'ils n'avaient ni les connaissances, ni le capital social, culturel pour y aller, ils ne l'avaient pas. Donc c'est vraiment une forme aussi d'accumulation, de choix de loi du plus fort, un peu libertarienne libéralisme exacerbé qu'on peut voir à l'œuvre aussi là-dedans.
Oui, tout à fait. C'est même plus que ça, puisque en fait, effectivement, ce que vous dites sur le capital culturel et la familiarité avec Internet qui permet de prendre rendez-vous en ligne pour se faire vacciner au plus vite. Effectivement, tout ça est juste, mais ce qui nous a donné envie de faire cette enquête, c'est que les personnels des centres de vaccination nous disaient que leurs patients habituels essayaient de prendre rendez-vous, mais n'y arrivaient pas, en fait. Donc, c'est pas seulement qu'ils voulaient pas... c'est pas seulement qu'ils avaient des réticences face à la vaccination, comme on l'a entendu, hein, et ça existe, mais là, c'est des gens qui habitaient la Seine-Saint-Denis, qui avaient envie de se faire vacciner, qui rentraient dans les critères d'âge, qui avaient 75 ans, j'ai oublié, mais 75 ans fin janvier 2021, puis entre 70 et 75 en février, etc. etc. C'est des gens qui rentraient dans les critères et qui ne parvenaient pas à prendre rendez-vous parce que toutes les places de rendez-vous avaient été prises par les classes moyennes et supérieures de Paris, des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Ouais.
Oui, voilà. Et tout à fait. Et d'une part, et aussi d'autre part, ça peut-être on y verra peut-être à la fin de l'entretien, mais quand même en glisser un mot, c'est que plus les biens spécifiques de santé qui sont produits dans le champ médical, ils se font rares, plus l'État il intervient dans la régulation de leur distribution qui est socialement différenciée, et plus les effets inégalitaires de l'action publique, ça échappe à ce qui pourrait être d'éventuelles mesures de rattrapage à des niveaux intermédiaires de l'action publique. Donc ce qu'on pourrait appeler un peu la santé sociale, on en avait parlé quand on avait eu un entretien avec Nadège Vézina, qui nous avait parlé de toutes ces choses-là, de santé communautaire, de santé sociale, qui essaie de rattraper, de corriger les inégalités sociales via le soin, et ben qu'on voit que c'était pas du tout que les politiques de l'État n'étaient pas du tout dans cette optique-là.
Voilà, tout à fait. Alors, et là, dans le cas de la vaccination, les collectivités territoriales, départementales, municipales, ont tenté d'infléchir la campagne vaccinale, la façon dont elle était organisée, quand les personnels de centres de vaccination ont constaté que leurs patients habituels ne parvenaient pas à prendre rendez-vous. Et donc, les directions des centres de vaccination ont tenté de réserver des créneaux de vaccination à leurs patients, et dans ce cas, les créneaux n'étaient plus accessibles sur Doctolib. À ce moment-là, ça c'était fin février, début mars 2021, ces agents intermédiaires de l'action publique ont été rappelés à l'ordre par le préfet, par l'agence régionale de santé, qui ont menacé les directions des centres de vaccination de diminuer le nombre de doses de vaccins attribuées à la Seine-Saint-Denis si tous les créneaux n'étaient pas mis en ligne sur Doctolib. Donc là, on voit bien que c'est un exemple d'intervention de l'État contre des mesures relevant, oui, effectivement, de ce que Nadège Vézina et Nicolas Duvoux nomment la santé sociale. C'est-à-dire, l'État est intervenu contre des mesures d'ajustement qui relèvent de l'universalisme proportionné, c'est-à-dire qui consiste à aller au-devant de la demande pour donner plus à ceux qui ont moins, en quelque sorte. Pour faciliter l'accès à ceux qui ont moins, qui sont plus loin des ressources en matière de santé. Voilà.
Et voilà. Et ben on va faire la pause musicale avant de passer à la dernière partie qui s'appelle Pratique et raison pratique du tri des malades.
Merci, très bien.
Vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La Tête dans l'étagère. On va écouter Soul Vibration et le titre du morceau, c'est The Bump. On va finir notre entretien avec Maud Jelly par rapport à son livre Les politiques du tri. Et donc, on va finir la dernière partie qui s'appelle Pratique et raison pratique du tri des malades. Alors, d'une part, il y a la différenciation des destinataires du dépistage du VIH afin d'optimiser le travail de santé publique. Donc, quels critères pour le classement des usagers voilà, quelle est la raison du classement de ces usagers, de ce public-là? Quelle est la raison pratique de ce classement? Mais aussi pour le Covid, on va voir les agents de l'hôpital public qui sont en prise avec la pénurie qui était mise à nu par cette épidémie. Et donc, avec la mauvaise foi de l'institution par rapport au tri des malades, en quoi cette crise n'est pas tant inédite que ça?
Oui, tout à fait. Donc là, on parle maintenant du troisième et dernier niveau de mise en œuvre et d'élaboration des politiques publiques, c'est-à-dire du travail des agents qui travaillent au contact direct des publics. Alors, dans le cas du VIH, ce qui m'intéressait en particulier, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce terrain d'enquête, c'est que c'était un dispositif anonyme et gratuit. Et donc, il me semblait que les conditions étaient réunies pour comprendre comment des agents du travail de santé font la différence dans les deux sens du terme, c'est-à-dire comment ils classent les destinataires de leur action dans le monde social et comment ils fournissent un service socialement différencié. Et cette enquête, par observation d'environ 200 consultations ou entretiens qui précèdent ou suivent le dépistage, m'a permis de montrer que les agents du dépistage apportent plus d'explications, plus détaillées à celles et ceux qui les comprennent le mieux. Sur quoi portent ces explications? Par exemple, sur des techniques de réduction des risques de contamination, beaucoup plus large que l'usage de préservatifs, notamment il s'agissait d'explications sur le traitement post-exposition qui était... ces explications étaient beaucoup plus détaillées dans les centres de dépistage associatifs qui visaient des hommes homosexuels, plus souvent des classes moyennes et supérieures, alors que les centres de dépistage qui visaient plutôt des personnes étrangères ou supposées l'être, hommes et femmes plutôt de classe populaire, avaient plutôt tendance à donner des ordres, en fait. Enfin, un rappel des modes de contamination et des ordres, mettez des préservatifs, revenez faire un test si besoin, et à donner des explications beaucoup moins détaillé sur la diversité des méthodes de prévention possibles. Voilà pour l'enquête sur le dépistage du VIH. Maintenant, dans le cadre du Covid, si on déplace donc la focale sur le travail des agents au contact du public, ce qui marque au pic de l'épidémie, c'est le déséquilibre entre la demande, les besoins de lits d'hospitalisation et surtout de réanimation, d'une part, et d'autre part, l'offre, c'est-à-dire le nombre de lits disponibles qui était évidemment très inférieur aux besoins. Donc les agents hospitaliers ont été témoins ont été témoins de pratiques de tri des malades pour l'accès à ces ressources rares, ou bien ont dû eux-mêmes et elles-mêmes décider entre plusieurs malades qui auraient le lit de réanimation. Évidemment, le gouvernement, les directions hospitalières ont dénié le tri des malades et ont justifié les confinements successifs par l'importance d'éviter par l'enjeu d'éviter au personnel de santé d'avoir à trier les malades, mais en fait, les données objectives du PMSI, c'est-à-dire les données statistiques sur les hospitalisations, montrent que l'âge des malades a bien baissé en réanimation et que la part de personnes de plus de 75 ans a d'abord augmenté pendant l'épidémie de Covid, puisque c'était les personnes âgées qui étaient les plus touchées, et ensuite, elle a diminué très rapidement. Cette part est passée de 30% à 11% entre le début et la fin du mois de mars 2020, ce qui montre bien que les enchères ont monté, en gros. Si l'âge des malades admis en réanimation a baissé, ça montre bien que les enchères pour accéder à la réanimation ont monté et qu'il fallait être plutôt plus jeune et en moins mauvaise santé qu'auparavant pour accéder à des ressources devenues rares. Ce qu'on montre par notre enquête plusieurs hôpitaux de régions particulièrement exposées à la première vague de Covid, c'est que paradoxalement, les agents qui ont eu à trier les malades n'ont pas éprouvé de dilemme moral, tandis que celles et ceux qui n'étaient pas en position de décider mais de gérer les conséquences du tri ont vécu ces situations comme des dilemmes moraux. Alors comment les agents qui ont eu à trier les malades légitiment le tri des malades ? Eh bien, il s'agit principalement des médecins, des urgences et de la réanimation, qui légitime le tri des malades en l'inscrivant dans des pratiques routinières et en le présentant comme une pratique qui sert l'intérêt des malades. Par exemple, un médecin des urgences dit on ne va pas leur faire subir trois semaines de réanimation parce que leur qualité de vie sera encore pire après qu'avant. C'est-à-dire que le refus de réanimation est légitimé par les séquelles et l'affaiblissement qui résultent de plusieurs semaines de réanimation. Au contraire, du côté des agents qui n'étaient pas en position de pouvoir, qui n'étaient pas en position d'accorder ou de refuser un lit de réanimation, c'est-à-dire du côté des aides-soignantes, des infirmières, c'était presque toutes des femmes, hein, c'est pour ça que je féminise, mais aussi des médecins de services, de services moins qu'on peut qualifier de relégation dans l'hôpital, comme par exemple les services de gériatrie, où étaient relégués les malades qui n'étaient pas admis en réanimation. Les aides-soignantes, les infirmières, les médecins de ces services ont éprouvé des dilemmes moraux en situation d'impuissance. C'est-à-dire elles voyaient bien que les malades qui arrivaient dans leur service mouraient plus. Et c'est pas un détail. Hein. Par exemple, une infirmière en gériatrie raconte que en quelques semaines, il y a eu 11 décès sur un étage de 25 malades, ce qui était très inhabituel pour elle, alors qu'elle travaille en gériatrie, donc elle a l'habitude de voir mourir des personnes âgées, mais pas 11, pas la moitié en 15 jours, quoi. En 3 semaines, très exactement. Voilà, donc les personnes qui n'étaient pas en position d'attribuer ou de refuser un lit de réanimation ont constaté les effets du durcissement du tri et ont tenté et réussi dans une certaine mesure, à contourner le tri par le tri, c'est-à-dire que les personnels de gériatrie ont bien compris qu'à partir du moment où les malades étaient orientés en gériatrie, c'est-à-dire n'étaient pas admis en réanimation et étaient orientés en gériatrie, si jamais leur état se dégradait, ils n'étaient plus jamais admis en réanimation, parce que le service de réanimation considérait qu'un malade qui venait de gériatrie, c'est un malade déjà âgé, déjà probablement atteint par d'autres maladies, et qui ne va pas, pour reprendre leur terme, tirer profit des services de réanimation. Donc les personnels de gériatrie comprenant ça, ont commencé à refuser certains malades adressés par les urgences, les malades les plus jeunes et les moins gravement atteints, parce qu'ils savaient que si ces malades allaient en gériatrie, ils ne seraient plus acceptés en réanimation. Donc la gériatrie refusait ces malades-là dans l'espoir que ces malades soient hospitalisés en médecine interne et qu'ensuite la réanimation les accepte si jamais leur état se dégrade. Voilà, donc c'est un des indices avec l'abaissement de l'âge des malades en réanimation le contournement du tri par les agents de l'hôpital par d'autres formes de tri constitue un autre indice du durcissement du tri des malades et de la compétition pour les lits hospitaliers pendant les pics de l'épidémie de Covid. Voilà.
Et dans le livre Pandémo politique, là, les auteurs ils disent que c'est pas à la suspension ou à l'apparition du triage qu'on a assisté avec ce phénomène, mais un changement de modalité de la sélection. C'est juste voilà. Un déplacement de modalité de la sélection. Donc c'est un ajustement de méthode organisationnelle, si on peut dire ça dans la nouvelle langue.
Oui, tout à fait. Et puis, ce qui a changé, c'est que ce qui a changé avec le Covid, c'est que le tri est sorti des coulisses de l'hôpital. C'est-à-dire que ça, effectivement, dans les trois auteurs et autrices de Pandémo politique le montrent bien, de même que le collectif qui a écrit le livre dont je parlais, La médecine du tri, les pratiques de tri sont assez communes en médecine. Il suffit de songer, par exemple, pour reprendre les articles publiés dans ce livre, il suffit de songer à la gestion de la file d'attente pour une greffe de rein ou pour des traitements de la tuberculose qu'étudie Caroline Ezembert. Les médecins, les professionnels de santé décident en permanence d'attribuer des biens rares à telle ou telle personne ou telle ou telle groupe de population. Mais en général, ça reste dans les coulisses des services de santé et enfin, ces débats, ces éventuels dilemmes moraux ne sortent pas des coulisses des services de santé, de l'hôpital, des cabinets médicaux. Bon. Alors que là, avec le Covid, les enjeux du tri des malades sont sortis des coulisses de l'hôpital parce que le gouvernement a justifié un certain nombre de mesures, les confinements, mais aussi l'annulation d'un grand nombre, vraiment, enfin, de la quasi-totalité des interventions hospitalières, par l'impératif moral d'éviter au personnel de santé d'avoir à trier les malades. Voilà.
Oui, en tout cas, c'était, il y a par rapport au fait qu'il était complètement pris de court et qu'il n'a rien compris, que la gestion était assez catastrophique de ce phénomène malgré les discours triomphateurs. Il y avait des sociologues des organisations qui avaient fait paraître dès 2020, qui s'appelait Covid-19, une crise organisationnelle aux presses de Sciences Po, c'était Henri Bergeron et Olivier Borras. Et eux, ce qu'ils disaient, c'était que ça révélait le trait fondamental de la bureaucratie française, c'était donner l'illusion qu'elle peut assurer la protection de la population face à des types de risques extrêmes, mais que par une suite de choix, plutôt de non-choix, parce qu'il y avait pourtant des plans qui étaient dédiés à ces situations pandémiques, l'État a adopté une situation qui n'était pas dans ces plans-là. Et selon le récit qu'eux, ils ont mis en place, que ça aurait été la prise de conscience au début du printemps, mars 2020, de la venue imminente d'une vague de patients en direction des hôpitaux, qui avait un nombre limité de lits et insuffisant de masques et de tests. Et c'est pour ça qu'ils ont pris ces mesures qui étaient même rationnellement pas tant sanitaires que ça, au vu des confinements ensuite et de l'arrêt des masques dans les transports en commun. Enfin voilà, que c'était pas tant des trucs sanitaires que le fait d'être dépassé, de ne pas apparaître dépassé dans un but publicitaire. C'est plutôt ça qui doit nous dire. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que par rapport à cette période, les agences étatiques et médicinales, elles ont aussi défini le nombre de lits de réanimation nécessaires et mobilisables, mais aussi elles ont aussi défini les critères de l'attribution des lits aux malades. Et ça aussi, c'est une forme de sélection, quoi.
Oui, mais ces critères étaient assez flous, en fait. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les critères de l'âge, de la dépendance et des comorbidités ne fixaient pas de seuil. En réalité, ce sont les agents qui travaillent au contact du public qui ont parfois dû déterminer des seuils parce que le niveau de l'eau montait, quoi. Et notamment, dans c'est un des deux hôpitaux où on a enquêté. Plusieurs enquêtés nous ont dit y compris ceux qui avaient participé à la réunion décisive, nous ont dit qu'un seuil non écrit avait été établi à 75 ans. En gros, au-delà de 75 ans, les malades n'étaient plus admis en réanimation. Alors qu'avant le Covid, ce seuil n'existait pas, n'était pas dans les têtes. Il n'a jamais été écrit, y compris pendant le Covid, mais il existait dans les têtes, alors qu'avant le Covid, il n'existait pas dans les têtes. Voilà.
Eh bien, on vous remercie pour cet entretien. Donc, on signale votre livre, c'est « Les politiques du tri » qui paraît aux éditions du Croquant. Voilà, et pour ceux qui veulent un peu lire des articles sur cette question-là, avec les personnes avec qui vous avez dirigé les deux volumes de Santé Critique, Acte de la Recherche en Sciences Sociales, ils avaient fait paraître assez tôt, hein, dès 2020, sur le site Métropolitique, c'était Audrey... Oui. Mariette et Laure Pitti, deux articles sur Covid-19 en Seine-Saint-Denis. Première partie, c'est quand l'épidémie aggrave les inégalités sociales de santé. Deuxième partie, c'est comment le système de santé accroît les inégalités. Donc, ça va un peu dans le même sens que votre ouvrage.
Tout à fait. Tout à fait.
Eh bien, on vous remercie pour cet entretien. On vous souhaite une bonne continuation.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
La tête dans l'étagère. Une émission de Critique sociale diffusée sur Radio Escapade les 1er et 3e mardis du mois de 17h à 18h. Rediffusion le vendredi à 9h30.